18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, vous le savez, c'est parti pour ce sommaire et puis surtout cette émission qui est la vôtre de 18h à 19h30. Les Informés, commenter, analyser, décrypter l'actualité, vous le savez, c'est chez vous, ici même, que ça se passe. Alors au menu ce soir, qu'est-ce que je vous propose, chers amis? D'abord, vous, partout dans le monde, je voudrais vous entendre exploser le standard pour venir partager, et bien tout simplement, vous, je sais que vous avez été très nombreux sur l'antenne, Algériens, Marocains, Tunisiens, et puis tous les autres notamment, parler de cette victoire historique du Maroc en pleine Coupe du Monde. Venez dévoiler, nous commenter vos émotions au 01 53 48 3000 dans 10 minutes à peine. Et puis nous irons avec Maître Jean-Claude Beaujour. On viendra sur l'actualité, on apportera un petit éclairage sur Macron et sa visite, qu'est-ce qu'on retient finalement de sa visite aux États-Unis. Et puis tout à l'heure, avec le docteur Majid Soussine et son billet d'humeur, ça se passe à 18h30. Et puis les débatteurs influenceurs qui viendront ici même confronter leur point de vue sur les quatre sujets qui ont retenu notre attention. Voilà le programme que je vous propose. Welcome, bienvenue, c'est parti. Tu as, Anthony, ce petit... J'aime bien parce que, vous savez, hier, il s'est lâché, Anthony, hier. Hier, il s'est lâché, Anthony, complètement. Il nous a fait des bruitages dans tous les sens, effectivement, pour nous faire vivre le penalty.
Voilà. Il n'y a qu'à demander.
Ouais, qu'à demander, exactement, Anthony. Eh ben, on ouvre l'antenne, le standard tout à l'heure, et je voudrais qu'il explose dans tous les sens, 01 53 48 3000, pour venir faire part de vos émotions, et puis aussi, tout simplement, eh bien, de comment vous avez vécu hier votre soirée. Les Informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti pour l'interview du jour.
Les Informés. Les Informés. L'interview.
Et c'est avec Maître Jean-Claude Bonjour. Bonjour, Maître.
Bonsoir, Adil.
Comment allez-vous?
Écoutez, je vais bien. Je vais bien. J'espère que pour tous vos auditeurs, c'est exact qu'il en soit de même.
Vous savez que les auditeurs, depuis hier, ils sont en train de vivre l'exaltation, justement, de cette victoire des Marocains face aux Espagnols et, on peut le dire, donc, qui se retrouvent face aux Portugais samedi prochain. Voilà. Le rendez-vous est pris. Dites-moi, mon cher maître Jean-Claude Beaujour, justement, je voudrais, vous, le spécialiste des États-Unis, qu'est-ce qu'on, finalement, on retient de la visite aux États-Unis du chef de l'État Emmanuel Macron?
Alors, vous savez, c'était la première visite d'État du président Biden depuis son accession à la Maison-Blanche l'année dernière, le 20 janvier 2021. Cette visite, pour moi, revêtait deux aspects, un aspect politique, un aspect économique, et donc avec un résultat qui est mitigé pour l'un, plus simple pour l'autre. Tout d'abord, sur la dimension politique, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on retient ou quel est l'intérêt de voyage. C'est toujours intéressant d'aller parler aux partenaires. Vous vous souvenez qu'il y avait eu, au mois de septembre 2021, la mauvaise façon des Américains à l'égard des Français, puisqu'il y avait ce contrat, ce très gros contrat des sous-marins australiens qui avait été annulé du fait d'un accord entre les Américains, les Australiens et les Anglais, le fameux dossier AUKUS, qui avait même valu le rappel de l'ambassadeur de France, M. Étienne, qui n'est pas une mesure de rupture des relations diplomatiques, mais qui est une façon de dire qu'on n'est pas content. Premier élément de la dimension politique. Autre dimension politique, il y avait également une différence sensible d'approche sur le dossier ukrainien entre les Européens et les Américains. C'était l'occasion pour le président français de jouer les go-betweens. Enfin, dernier point qui est dans le prolongement de l'affaire ukrainienne, ce sont les discussions avec l'Europe. On a un chancelier allemand qui prend à peine ses fonctions, on a une Grande-Bretagne qui n'existe pas dans l'Union européenne, et puis on a une Italie avec une chef de gouvernement qui vient juste d'arriver. Donc finalement, le président français est un peu le porte-voix de l'Europe. Donc à tous ces égards, c'était des discussions politiques intéressantes. Vous me direz que la politique ne suffit pas, il faut passer aux actes. Et là où le dossier est plus incertain, en tout cas la dimension économique est plus incertaine, puisque le gouvernement américain a fait voter une loi IRA, qui en anglais c'est Inflation Reduction Act, qui visait à lutter contre enfin, qui est un dossier, une politique économique, qui notamment va dans le sens de la transition écologique, mais qui est extrêmement agressive, c'est l'expression du président français, parce que ce sont des mesures qui désavantagent les entreprises étrangères qui travaillent avec les États-Unis. Donc c'est de la concurrence déloyale, en d'autres termes.
Dites-moi,
ce dossier en revanche est au point mort. On espérait, mais on peut imaginer qu'il y ait des exemptions comme ça a été accordé par les États-Unis aux Mexicains, aux Canadiens, mais là, pour l'instant, le président français n'a rien obtenu. Les discussions sont ouvertes. Donc, sur le plan économique, sur le plan des dossiers économiques, il y a une vraie déception.
Dites-moi, justement, cette déception, quel était finalement l'enjeu ? Est-ce qu'il était important à la fois pour les États-Unis ou est-ce qu'il était important plutôt pour la France et l'Europe notamment ?
Alors, j'ai entendu cela, mais c'est vrai que c'est surtout pour nous, j'ai envie de dire, on en a beaucoup parlé. Vous savez, dans la presse américaine, c'est pas la préoccupation des Américains, ce voyage d'État. Donc oui, c'était, j'ai envie de dire, le président Macron avait plus à gagner à effectuer ce voyage que le président Biden qui termine ses élections de mi-terme. Donc c'est pas. Et puis aujourd'hui, l'opinion publique américaine, je vais vous dire, moi je vis à des niveaux, j'ai envie de dire, près de l'américain lambda. C'est la question de l'inflation, c'est la question du le risque de l'emploi, du chômage, ce sont les questions relatives au logement. C'est pas la politique avec l'Europe, c'est très accessoire pour l'Américain au quotidien. Vous savez, que quand vous faites vos courses, moi je m'en suis rendu compte, je m'en rends compte, quand vous faites vos courses et que vous voyez que les choses, les produits ont terriblement augmenté, lorsque vous savez qu'on peut gagner 3 ou 4 000 euros de dollars en Californie et qu'on n'arrive pas à se loger correctement, c'est ça la préoccupation des Américains. Voilà, donc c'est vrai que ce voyage d'État n'était pas une préoccupation majeure pour le peuple américain.
Et puis enfin, vous savez, c'est aussi ce voyage, cette visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis avec ce dîner avec qui s'est transformé sous la forme d'un dîner de stars, d'honneurs et pas mal de choses dans les coulisses. Justement, ces coulisses, on peut en parler parce que on a beaucoup retenu dîner paillettes.
Oui, mais vous savez, la politique est faite de symboles. On a beaucoup critiqué, souvenez-vous, Emmanuel Macron était le ministre, le conseiller du président Hollande. On a beaucoup critiqué le président Hollande parce qu'on estimait que il en faisait pas assez, il n'était pas assez. Là, on critique aussi, et pourtant, je suis pas là pour voir vendre le dîner ou la visite du président de la République. Ce que je suis en train de dire, prenons un peu de mesure. La politique, la diplomatie, c'est aussi une question de décorum. Relisez l'histoire diplomatique française, les dîners à Versailles, je veux dire, voilà, ça a toujours existé. Cela étant, l'intérêt, j'entends nos concitoyens, je suis le premier à dire, mais il faut que tout ça serve à quelque chose, ça veut dire que derrière, il faut pouvoir faire avancer le dossier. Avec un certain nombre d'amis, un certain nombre de partenaires, moi, dans le cadre de nos activités, eh bien, nous accompagnons, c'est l'occasion pour nous de travailler sur l'accompagnement d'entreprises françaises qui veulent s'installer aux États-Unis. Donc, vous voyez, à l'occasion de ce déplacement, crée une actualité, crée une proximité dans les rapports que l'on peut avoir avec les interlocuteurs divers et variés. Ça permet de faire avancer malgré tout un certain nombre de dossiers, mais il faut faire le boulot derrière. C'est nous qui le faisons derrière. C'est-à-dire que j'accompagne les clients français ou américains dans un sens ou dans un autre. On fait vivre les projets parce qu'effectivement, le président Biden a rappelé, et derrière, il faut que les services suivent. Mais il faut faire le travail derrière. Sinon, effectivement, le dîner n'est qu'un dîner.
Raison, effectivement. Dernière question. Dites-moi, Emmanuel Macron, finalement, est-ce qu'il n'a pas profité de cette visite d'État aux États-Unis pour se redonner une nouvelle image d'un chef d'État qui est aujourd'hui, vous le savez, un peu terni en France ?
Bien sûr, c'est bien connu. On va faire un peu de politique internationale parce que c'est plus de l'amour, en tout cas, alors même qu'il y a un certain nombre de sujets. Mais c'est de bonne guerre, les autres présidents l'ont fait aussi. Moi, j'ai le souvenir, vous êtes un peu jeune, mais j'ai le souvenir de déplacements de François Mitterrand, j'ai le souvenir de sommets organisés à Versailles par Jacques Attali. Ben, tout cela, ça visait à donner du lustre au président. Maintenant, il ne faut pas croire qu'il n'y ait que cela qui puisse servir de politique.
Merci infiniment, mon cher maître Jean-Claude Beaujour. J'espère vous retrouver très vite sur le plateau, dans le studio. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci maître d'avoir été avec nous justement. Il fallait évidemment se poser quelques minutes pour mieux comprendre et décrypter cette actualité, cette visite d'État donc d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Allez, c'est parti, le standard, on l'ouvre maintenant. Et Anthony vous attend au 01 53 48 3000. Je vais lancer la pub et je vous attends pendant la pub justement avec cette Coupe du Monde, cette histoire. Beaucoup ont retenu effectivement que l'histoire est en train de s'inscrire. Et justement, cette histoire est en train d'être écrite aussi, notamment la qualification du Maroc vécue par vous tous. On vous attend au 01 53 48 3000. Comment vous l'avez vécu? Sous quelle forme? Est-ce que vous l'avez fêté, pas fêté? Est-ce que vous avez été évidemment vous rendre comme tous ceux du monde entier, justement, dans les centres-villes, dans les endroits où on a fêté cela? Eh bien, je vous attends au 01 53 48 3000. On a vu aussi beaucoup, vous savez, tous ces drapeaux d'ailleurs, hein, marocains, algériens, tunisiens, et puis tous les autres d'ailleurs, converger dans tous les sens. Est-ce que c'est aussi la qualification d'un pays qui est celui du continent africain? C'est la question, hein, c'est vrai, parce que j'ai entendu beaucoup ça, notamment hier, j'étais sur les champs, j'ai été par accident sur les champs, on a fait ce direct avec Time Sport, justement, je vous avoue que j'ai été agréablement surpris, parce que c'était bon enfant, c'était bon esprit, et puis surtout, il y avait une jeunesse avec des jeunesse et puis des familles avec leurs enfants, des drapeaux qui brandissaient dans tous les sens. Et franchement, alors dans la majorité, il y avait des drapeaux marocains, mais ce qui m'a surpris aussi, qu'il y avait aussi beaucoup de drapeaux algériens, mais également aussi tunisiens. Et j'ai vu des drapeaux sénégalais, je vous le promets aussi. Et beaucoup parlaient d'une qualification africaine, comme si l'Afrique, ça y est, elle sort de quelque chose. Eh bien, je vous attends au 01 53 48 3000. Parlons-en, nous. Prenons le temps d'en parler. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Allez, les 18h19, c'est parti, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Et nous allons parler de Coupe du Monde avec ils ont écrit l'histoire. Ça, c'est une déclaration des supporters. La qualification du Maroc vécue par vous-même, justement au 01 53 48 3000. Je voudrais vous entendre ici même faire péter le standard. Vraiment. Anthony, il en rêve. Donc allez-y, je vous attends au 01 53 48 3000. N'est-ce pas, Anthony?
J'attends que ça. Faites
petit. Voilà, allez-y. Zora de Toulouse, direction Toulouse. Bonsoir, ma chère Zora.
Bonsoir Adil.
Bonsoir tout le monde. Alors, ce match, ces tirs au but, et puis cette soirée, cette folle soirée, partout dans le monde d'ailleurs, j'ai vu les images, on m'a envoyé un tas de trucs justement. Comment vous l'avez vécu vous-même, Zora?
Alors, moi je suis d'origine marocaine, comme moi. Voilà, ma petite fille. Et du coup, c'est comme si, comme une naissance, si vous voulez.
Oui.
Une naissance d'enfant où on a vécu, on nous a donné une nouvelle vie.
Et ça, c'est génial, c'est une naissance d'enfant, la naissance d'un enfant. Ça veut tout dire, ça veut dire c'est vraiment la joie, c'est tout quoi, c'est ça. Mais c'est qui est à vos côtés? C'est votre fille qui est à côté, j'entends la voix d'un enfant.
Oui, c'est ma fille.
Votre fille, mais donnez-la, elle a l'air toute heureuse, votre fille, ça se s'entend là, à côté.
Vas-y, parle.
Comment ça va? Tu t'appelles comment?
Fana Minata.
Eh bien, comment tu as vécu cette soirée? T'es contente et heureuse?
Oui.
Bon, t'as passé une bonne soirée?
Oui.
T'es sortie avec tes parents, klaxonner dans tous les sens, jusqu'au centre-ville?
Crier,
c'est ça. Ah bah bravo, écoute, bravo. Bah en tout cas, c'est bien. Le rendez-vous est donné, hein, Zora. C'est samedi maintenant, oui. Désormais. Comment vous sentez les choses?
On attend que ça et on souhaite...
Face au Portugais, attention, Ronaldo.
Ça, c'est encore... l'apogée de tout ce qu'on souhaite pour notre pays et même pour la communauté maghrébine, pour l'Afrique. Parce que, ben voilà, moi je suis marocaine, mon mari est malien, mais pour autant on est tous un même continent, une même communauté.
C'est ça.
Et ça serait vraiment la consécration.
C'est ce que j'ai beaucoup entendu justement, l'Afrique et l'Afrique qui l'emporte. Merci Zora.
Merci à vous, bonne soirée, à bientôt.
Bonne soirée, à bientôt.
À bientôt mademoiselle, à bientôt, qu'est-ce qu'elle est mignonne, c'est bien, ça c'est bien.
Merci.
Toute génération, je vais rester à Toulouse, tiens, exprès à Toulouse, je vais pas bouger. Je vais recevoir Amal, bonsoir Amal.
Salam alaikum.
Alaikum salam, on vous écoute ma chère Amal, comment vas-tu?
Ben, ça va, alhamdoulilah, j'espère que tout le monde se porte bien.
Ben oui, on vous écoute alors, comment vous avez vécu ce match?
Franchement, je vais dire magnifique. Personne n'a cru en nous et pourtant on l'a fait.
Ah, oula, ouais, je crois qu'est-ce qui s'est passé à mal.
Je vous entends.
Ah, ça y est, on vous a reconnecté. Qu'est-ce que vous disiez? Personne n'y croyait.
Personne n'a cru en nous et on l'a fait, on a gagné.
Eh bien, écoutez,
franchement,
vous avez fait la fête.
C'est pour tous les Marocains du monde, les Algériens, les Tunisiens. Khawa khawa, il n'y a pas d'adawa binatna.
Ouais. C'est vrai.
Et on l'a dédié à toute l'Afrique et à tous les gens qui aiment le Maroc. Et même s'ils ne gagnent pas contre le Portugal, ils nous auront fait honneur dans cette Coupe du Monde.
Vous avez raison. Vous avez raison, Amal. Voilà. 01 53 48 3000. Merci, Amal, d'être intervenu.
Merci.
Comme vous êtes nombreux, je fais le maximum de passages. Merci, Amal. Merci pour votre fidélité. Vous êtes très, très nombreux. Et c'est une très bonne chose. Reda, bonsoir, Reda. Vous nous appelez de quelle ville, mon cher Reda?
Salam, Montpellier.
Montpellier, la ville que je chéris. Vous savez que c'est là où j'ai étudié.
Le Maghreb, le Maghreb.
Alors, on vous écoute. Comment vous avez vécu alors?
On est les plus heureux. On est encore en plein d'émotions.
Oui.
Voilà, j'arrive pas à y croire. Je suis encore ému. J'ai de la joie, des larmes de joie, des frissons. Et voilà, je voulais passer en live pour le dire.
Bah vous avez raison, Reda, vous avez raison. Vous êtes sorti comment? Avec vos amis, en famille? Qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-nous, comment vous avez vécu votre soirée hier?
J'étais dans un café oriental, maghrébin, avec des frères algériens, les frères tunisiens. On a fait l'ambiance.
On est tous ensemble.
Là, il y a mon frère avec moi, on a foutu le feu dans la bonne ambiance, bien sûr. Après, on est sorti, on est allé en ville, on a klaxonné. On a hissé les drapeaux, on a chanté, on a dansé, j'ai rejoint. Après, j'ai récupéré mes enfants, qui étaient les plus heureux.
Ouais.
On a fait un peu de cortège. Ah oui, je suis encore ému. Hein. Encore
ouais, je vois. Ça s'entend, le timbre de votre voix.
Un hommage à Thierry Roland, on peut mourir en paix. On peut le dire, nous aussi. On peut mourir en paix. Et oui, je suis très heureux. on peut le dire.
C'est génial, j'adore.
Voilà.
Bravo, Reda, bravo, c'est bien. Samedi, vous êtes au rendez-vous ou samedi, hein?
Ah oui, j'espère.
Eh ben, vous avez dit, il y a du monde derrière, là, on voudrait vous entendre.
On est au quartier, là.
Faites vivre l'antenne, là, allez-y. Qu'est-ce que vous dites? C'est bien du côté de Montpellier. Merci Reda, on vous embrasse, prenez soin de vous.
Merci à vous, merci, bonne soirée.
Bonne soirée, on va aller direction le 93 où je vais accueillir Malik. Bonsoir Malik.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, bienvenue. Quelle ville du 93 précisément?
Le Rancy.
Eh bien on vous écoute cher Malik, parlons-en.
Vraiment, je suis algérien, je tiens à remercier tous les Marocains et spécialement l'entraîneur, les joueurs. Et les supporters, ils ont fait un match fou. Même les supporters, je dis. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Et l'entraîneur, tactiquement, ils étaient. En fait, on dirait PlayStation. Et il a donné des consignes tactiques. Les joueurs, ils l'ont respecté à la lettre.
Ouais.
Bravo, vraiment chapeau. Et il faut continuer comme ça. Il faut passer le Portugal aussi.
Ouais, c'est vrai, vous avez raison, parce qu'on a vu hier une fraternité se nouer. Et elle a été extrêmement solide avec, évidemment, à la fois cette fraternité Maroc-Algérie, mais également aussi avec la Tunisie et africaine. Hein. C'était beau à voir, c'était beau à regarder quand même. Hein. J'ai vu même, figurez-vous Malik, on m'a envoyé une photo, parce que j'ai été inondé de vidéos, ça a explosé mon portable, et j'ai reçu une photo moi qui a marqué, vous savez quoi, qui a retenu mon attention, une photo d'un JT, je ne sais pas de quel pays, un JT, où le journaliste a décidé de montrer des supporters algériens, des supporters marocains, ensemble, pour fêter cette victoire.
Bah, il faut. En fait, tous les problèmes politiques entre les États, on s'en fout. Non, c'est le peuple, en fait.
Vous avez raison.
C'est le peuple est heureux, puis voilà, quoi.
C'est ça.
Mais il faut juste un message à tous les Algériens, aux Marocains qui vivent dans les pays respectifs. Faut pas trop écouter tout ce qui se passe à la télé, voilà.
Vous savez quoi, Malik? J'ai entendu dire ce matin que beaucoup voulaient se rendre à Doha au Qatar et qu'il n'y avait plus de billets. Il n'y a plus de billets. Il y a tellement une demande, une forte demande qu'il n'y a plus de place.
Bah, c'est un peu bizarre avec tous les supporters qu'il y a sur place. Déjà, c'est beaucoup. Du coup, c'est sûr que, voilà. Ça ne m'étonne pas, en fait, qu'il n'y ait plus de place, en fait.
Merci Malik d'être intervenu.
Merci à vous, bonne soirée.
Bonne soirée, je vais accueillir Ladi. Bonsoir Ladi de Paris, justement. Ladi, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, on vous écoute.
Je vous remercie. Franchement, je peux vous dire une chose. Je ne sais pas, j'ai un voisin marocain. Pas seulement on a fêté le match, il m'a ramené un Missou d'agneau. Ouais. Je ne sais pas lequel de nous deux est le plus heureux. Ou c'est lui ou c'est moi. Je pense les deux, quoi. C'était merveilleux.
C'est vrai.
Les Marocains, ils étaient héroïques. La défense et Amrabat, ils étaient des fous, quoi. Ouais. Je suis fier d'eux, quoi. Ouais. Je suis algérien, j'étais à 200% derrière les Marocains et c'est une fierté incroyable, quoi.
C'est vrai que c'était beau à voir, hein. C'était beau à vivre aussi, notamment.
Enfin, franchement, émotionnellement parlant, quoi, Agard et Saïs, sur des rotules, quoi, ils étaient cuits de chez cuits, mais le courage et la fierté de porter les couleurs du Maroc, ils ont fait un match de dingue, quoi.
Un match de dingue, vous pouvez le dire, effectivement. Un match de dingue, et vous étiez tous ensemble, Marocains, Algériens, à regarder, à vivre ce match,
mais
vous d'origine algérienne.
On ne s'arrête pas à ça, moi, j'ai fini ce problème de frontières, de maghrébins, de nord-africains. Moi, je m'identifie en africain, j'ai supporté toutes les équipes africaines. J'étais fou avec l'Algérie en 2014 contre l'Allemagne. C'est la même chose, j'étais déçu de la prestation du Sénégal contre l'Angleterre. Dommage avec l'absence de Sadio Mané. J'étais pour les Africains, quoi.
Vous avez raison, c'est vrai. Vous êtes ce soir très, 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 très nombreux. Marocains, Algériens, évidemment, dans la majorité, ce soir, à intervenir sur l'antenne pour exprimer vos émotions de la manière dont vous avez vécu hier. Donc, ce match, évidemment, qui s'inscrit dans l'histoire, puisque c'est une première pour le Maroc qui, ça y est, hein, dans le marbre, s'inscrit en quart de finale. Merci, Ladi, de nous avoir fait vivre ça à l'antenne.
Je vous en prie. J'espère une chose qui récupère bien pour le match contre le Portugal.
Exact. Le Standard continue et on vous attend au 01 53 48 3000. Allez, continuez de nous appeler. Justement, on parle de cette histoire qui continue de s'écrire avec vous notamment et vos émotions. 01 53 48 3000, on vous attend. Justement, venez pour nous raconter comment avez-vous vécu justement cette soirée d'hier soir. 18h30, le Quad 9.
Les informés, le Quad 9.
Et le Quad 9, vous le savez, c'est avec, comme chaque mercredi, c'est le boss, le docteur Majid Seoussine. Bonsoir docteur.
Bonsoir Adil.
Eh bien, bienvenue à vous. Justement, merci. Mon cher docteur, vous êtes chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, vous êtes à l'hôtel Les Invalides, hein, aux Invalides, pardon, chez les militaires, mais également au SAMU. On vous écoute, qu'est-ce que vous nous avez concocté ce soir? Dites-nous tout.
Eh bien écoutez, mon cher Adil, que d'événements cette semaine. Le grand remplacement se confirme. Ah. Que dis-je? La grande reconquista est en marche avec cette victoire du Maroc sur l'Espagne.
Ah.
Peut-être qu'avec un peu de chance, les Marocains iront jusqu'à reconquérir Ceuta et Melilla et l'île du Persil.
Il est fort ce docteur. Il démarre fort. Ah, il est. Pardon docteur, mais c'est de votre faute. C'est vous. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est de votre faute, hein.
À votre service. C'est ceux qui sont toujours des enclaves qu'occupe l'Espagne. Une victoire quand même qui nous ravit, mais qui nous montre qu'il faut se méfier de l'immigration. On la colonise pour son bien, on leur apprend à jouer au football, et ne voilà-t-il pas que l'élève rejoint le maître. Un peu comme toutes ces boulangeries françaises qui passent aux mains des Tunisiens, ou ces cuisines des brasseries parisiennes occupées par des Bengalis, ou pire, des Maliens.
Il est bon.
Où allons-nous? Où allons-nous, mon cher Adil? Heureusement, heureusement, il y a Gérald qui nous sort son projet de loi sur l'immigration. Une de plus, me direz-vous. Et vous n'avez pas tort. En fait, moi, j'ai l'impression que plus il y a de lois sur l'immigration, plus il y a de mouvements d'immigration. L'inflation marche dans les deux sens. On veut ceux qui bossent et pas ceux qui rapinent. On ne peut être contre le principe. Sauf qu'il y a des gens qui prétendent qu'à Roubaix, ils préféraient plutôt ceux qui tapinent. Mais ça, vous savez, Adil, il y a tellement de mauvaises langues ou de bonnes. Ah, c'est selon. En dehors du fait que ça a le mérite d'être clair, ça la valide par un type plutôt de la droite bien mûre, que l'immigration, c'est aussi, et je pense que pour ma part, que c'est surtout des gens qui bossent. Mmh. Rapiner est un néologisme. Macron, qui a plus de lettres, aurait dit plutôt « Nous voulons les laborieux et pas les vite goussés ». Que voulez-vous ? On ne se refait pas, après tout, Darmanin n'est qu'un enfant d'immigration, de celle qui bosse, bien sûr, mais ça reste un immigré, vous savez, ces gens-là, on a beau faire, hein, ça s'élève pas au même niveau que tout le monde, quoi. Quant à Macron, cette semaine, il s'est pris pour le pape. Non avere paura. Comme aurait dit Jean-Paul II. J'ai fait ma phrase en italien, vous auriez pu éviter la clochette.
J'ai entendu, c'est pour ça qu'on a mis la clochette.
Ah, comme aurait dit Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Et c'est vrai qu'on a envie de le croire avec son air de nous dire que s'il faut, il ira pédaler dans une centrale nucléaire pour qu'Adil puisse faire chauffer son sèche-cheveux et faire ses brushings.
Je vous ai déjà dit, les auditeurs vont prendre ça au premier degré et non pas au second degré.
C'est pas grave si vous faites des brushings.
J'en fais pas du tout.
Tant que vous n'êtes pas réduit aux implants. Il avait l'air tellement excédé contre son gouvernement, contre les dirigeants d'Enedis, qu'il devait avoir l'impression d'être une Ferrari coincée dans les embouteillages du périphérique à 18h. C'est dur d'être brillant dans un pays qui n'aspire plus à être grand et qui vaut tout juste ne pas finir comme le port de Hambourg que viennent de racheter les Chinois cette semaine. Un signe, ça, mon cher Adil. Et ce n'est pas parce que la France est en quart de finale de la Coupe du Monde qu'elle continue de jouer en Ligue 1 sur l'échiquier mondial.
Mmh. C'est vrai. Et ben, vous savez quoi, je vais vous féliciter. On va être nombreux à vous féliciter. Bravo. Excellent. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez quoi pour écrire?
Un stylo plume à l'encre violette.
Je comprends. Voilà, c'est pour ça. Je comprends mieux. Hein. Vous êtes.
C'est le stylo, vraiment. C'est pas moi.
Vous êtes inspiré, mais bravo, mon cher docteur Majid Soussine. C'est la classe internationale. À mercredi prochain, sans faute.
Avec joie.
18h34, on marque rapidement une courte pause et je vous attends au 01 53 48 3000, tout de suite, pour continuer de nous dire comment avez-vous vécu justement cette soirée d'hier soir, la soirée justement avec cette histoire qui continue de s'écrire. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et les 18h41, continuez de nous appeler au 01 53 48 3000, je voudrais vous entendre, vous savez quoi? Et bien tout simplement nous dire comment vous avez vécu votre soirée hier, ce match, vous qui êtes chez vous qui êtes auditeur partout en France et dans le monde d'ailleurs, algérien, marocain, tunisien et où tous les autres d'ailleurs, venez nous faire vivre vos émotions et nous dire, raconter comment vous avez vécu tout cela. 01 53 48 3000, ah, il aime bien ça Anthony, allez vas-y, profites-en, fais casser le truc. 53, 48, 3000 en attendant vos appels. Eh bien, nous démarrons le face-à-face. À tout de suite au standard.
Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face est avec, justement, Emmanuel Dupuis, celui qu'on appelle le globe-trotteur. Oh. Ça te fait rire, ouais. Ça vous fait rire, pourquoi?
Ça me fait plaisir.
Pourquoi?
Parce que c'est vrai.
Bah, vous passez votre vie soit dans les médias, soit dans les...
Sur les plateaux.
Ou alors
ou sur le terrain.
À voyager dans les avions.
Oui, enfin.
Bah, tout se passe bien.
C'est pour aller sur le terrain.
Pas trop fatigué.
On ne peut pas parler de conflit si on ne va pas sur le terrain.
Vous avez raison, c'est vrai. Président toujours de l'IPSE, hein?
Ah, toujours. Tant que je n'ai pas débarqué.
Ah, j'aime déjà.
Tant que mes troupes veulent de moi. Ça va. Je tiens.
Voilà, président à vie. Le mec, c'est, il reproche aux autres de ne pas être président à vie, mais lui-même, il s'accorde. Il s'octroie la présidence à vie.
Alors, vous avez vu qu'il y a quand même un avis du Conseil d'État dont on va beaucoup parler.
Oui.
Un avis du Conseil d'État qui autorise un président de collectivité territoriale à faire plus de deux mandats consécutifs. C'est-à-dire que le président français pourrait s'en inspirer éventuellement si on passe vers un septennat, c'est-à-dire qu'on remet les pendules à l'heure et il pourrait repartir pour un troisième mandat. Donc il faut faire très attention à ça. En tout cas, beaucoup regarde avec beaucoup d'attention cet avis du Conseil d'État.
Vous êtes en train de nous dire un petit message, là, dit donc, non? Oh,
Non, j'ouvre une piste.
Vous ouvrez une piste, vous avez bien raison. Avant d'accueillir Younes de Saint-Denis, de continuer de vous faire vivre, évidemment, cette victoire qualifiée d'historique. Jimmy Dalidou est le représentant syndicat, mais également auteur. Bonsoir, Jimmy.
Bonsoir
Dalidou.
À tous.
Comment ça va?
Ça va.
À vos côtés, vous avez, eh bien, qu'est-ce que vous voulez dire là? Je vous ai arraché le micro.
Non, en spécial, tout va bien. Pas encore, mais
non, tout va bien.
Pas encore.
Gamal Abina qui arrive fraîchement en train de courir, le marathonien qui n'arrête pas. Comment ça va, Gamal Abina?
Très bien, et vous, Adil?
Oui. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe dans le métro?
C'est pas le métro, j'étais retenu sur une émission de TV.
Là, vous aussi, qui est tout le temps dans les médias en ce moment.
Oh, très peu.
Ah bah écoutez, moi j'ai vu, hein, vous nous bombardez sur WhatsApp justement.
Surtout chez vous.
C'est vous le plus important.
Ouais, le plus important, c'est aussi...
Par contre, je vais rajouter un petit complément à ce que disait notre ami Emmanuel.
Oui.
Le petit avis dont il a parlé, il est complété par une technique intéressante, c'est que M. Macron pourrait faire un troisième mandat s'il n'arrivait pas au terme de son second mandat.
Il faudrait qu'il démissionne, oui.
Voilà, et donc ça permettrait de l'autoriser, puisqu'il n'est pas complet, à en faire un troisième, c'est ça la méthode.
Ah, tu veux mettre les Français en dépression nerveuse, Gamal?
Ouais. Ça dépend avec elle.
On en parlera le moment venu. Tiens, je vais accueillir avant de lancer le face-à-face juste Younes. Younes, bonsoir Younes, vous nous appelez de Saint-Denis.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue, on vous écoute, mon cher Younes.
Bonjour.
Ça, c'est un jeune Younes, le jeune Younes. Lycéen, collégien?
Non, c'est en primaire.
En primaire, encore mieux. Alors racontez-nous, comment vous avez vécu votre soirée hier?
J'ai mal à la gorge.
J'entends. Vous avez crié. Tu as beaucoup passé ton temps à crier, mon cher Younes, non?
Oui.
T'es un garçon content? Un jeune homme content?
Oui. Super content.
Oui, t'es sorti, t'as fait la fête.
Ah oui.
Bon bah écoute, bravo en tout cas, c'est bien. Allez, va guérir ta voix, prends un peu de miel. Ça va t'aider à... Comment?
J'ai l'Algérien, mais j'ai supporté.
Ah, c'est beau.
Eh ben, c'est bien, c'est beau. Bon, on parle de la fraternité depuis tout à l'heure.
Absolument.
Ben oui, c'est ça qui est beau. C'est cette union, l'union. On en parle en permanence. Merci, Younes.
Au revoir.
Et sois bien ta gorge, 0153483000. Nous continuons de vous faire vivre, évidemment, sur l'antenne. Et on vous attend toujours au standard 0153483000. Le face-à-face est parti.
Les informés. Le face-à-face.
C'est parti, messieurs, tout de suite avec cette victoire. Donc, justement, historique du Maroc en Coupe du Monde. C'est une première. Après, c'est le quatrième pays. Après, évidemment, une série. Que peut-on dire? Parce que, évidemment, on a vu plein d'images, on a vu plein de vidéos, on a vu plein de choses. Le tour du monde avec, partout, les Marocains ont fêté, dignement cette victoire historique qui s'inscrit, y compris même, on a vu Mohamed VI, le roi du Maroc, vous savez quoi?
Et son fils.
Eh bien, et son fils. Il était dans sa voiture dans une des villes du Maroc et, Il partageait ce moment avec les supporters. Ça, ça a été incroyable quand même, Emmanuel Dupuis.
Oui, c'est un magnifique moment. Je crois qu'il faut se féliciter du résultat sportif, parce que c'est avant tout une victoire sportive, il faut quand même le rappeler. Et puis évidemment, on parlera peut-être des effets géopolitiques ou de l'impact que ça peut avoir. En tout cas, se féliciter qu'il y ait encore, et pour... la suite des événements, une équipe africaine.
Et vous savez, après match. Le Cameroun, le Ghana, le Sénégal, maintenant le Maroc.
C'est bien que ce soit au fur et à mesure, ce serait bien qu'il y en ait plus. Enfin, c'est déjà très bien qu'il y ait cette équipe du Maroc. Deuxièmement, il faut se féliciter évidemment du fait que cette équipe du Maroc confirme qu'elle joue de mieux en mieux et que le football n'est pas seulement l'apanage de certains pays dans lesquels les joueurs sont bons parce qu'ils sont dans des clubs où ils sont grassement payés.
On l'a vu avec l'Espagne.
La plupart des joueurs du Maroc ne sont pas dans des clubs ni européens, certains.
80%.
Tous.
Il y a trois Marocains et tout le reste européens.
Tous, vraiment.
Et beaucoup de Hollandais d'ailleurs.
Oui, enfin bon, ça c'est l'apanage des autres, du foot en général. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une volonté aussi de montrer que le foot reste un sport d'amateur.
Et populaire. Oui.
Alors c'est un petit peu une exception, mais en tout cas, cette Coupe du Monde. Alors que l'on disait que cette Coupe du Monde n'allait pas passionner les Français et accessoirement les ressortissants des différents pays, on voit le contraire.
Exactement.
D'une certaine façon, le Qatar a réussi son opération.
Et avec les cartons d'audience, notamment.
Absolument, ouais. 14 millions.
Pulvérise, hein, les audiences. Pulvérise.
Ah oui, oui.
Pulvérise sur Bein Sport et TF1, c'est impressionnant. Jimmy Dalidou, justement, cette victoire, et vous l'avez vécu comment? Ces enjeux, on parlera aussi des enjeux géopolitiques, effectivement. Mais vous,
ouais,
alors, Jimmy
ouais,
Dalidou.
Ouais, bon, je vous, pour vous parler franchement, je regarde pas je regarde pas les
alors, en tout cas, les klaxons et les drapeaux ne vous ont pas échappé.
En fait, pour vous parler franchement, j'étais à la maison en train de lire mon livre, tranquillement. Et j'étais en train de lire un bon livre de Karl Marx, tiens. Et d'un seul coup, j'ai entendu les you-you et les klaxons, et je me dis, tiens, les frérots, ils ont dû gagner le match.
Ah ouais.
Mais bon, c'est pas mon truc, le foot, mais je respecte le sport, évidemment. Je suis moi-même très sportif. Les valeurs qu'il véhicule, mais c'est un petit peu dommage que le foot, d'une manière générale, soit autant politisé. Et effectivement, moi je propose qu'on baisse le salaire des joueurs de foot.
Ouais.
Comme ça, ils courront plus vite et l'équipe du Maroc va gagner.
Il faut qu'il la remplace. Hein. Jimmy Dalidou, on reconnaît
l'équipe de France, qu'on baisse leur salaire. L'équipe du Maroc va plus souvent gagner.
Avant de retrouver Gamal Abina, justement, vous savez, il y a Leïla du 95, Sam de Saint-Denis. Gamal Abina, alors cette folle soirée, justement, dans tous les sens du terme.
Déjà plusieurs choses. J'avais annoncé la victoire du Maroc parce que j'y croyais, parce que c'est une grande équipe depuis 4 ans. C'est pas d'hier, ils ont un bon niveau. Il y a 4 ans, ils ont été volés en Coupe du Monde avec de la triche organisée, refus de pénalty, un pénalty contre eux. Bref, une équipe brillante qui était bien préparée. Ensuite, la deuxième chose, c'est vous avez fait référence au fait qu'ils aient réussi un exploit. C'est un exploit à 2 titres. Il y a très peu d'équipes africaines, on n'en a que 5, alors que l'Europe en bénéficie de 10, l'Amérique du Sud 10. Bref, c'est vous dire que réellement, on n'est largement pas servi. 54 pays africains quand même, donc c'est quand même pas normal. Et ils ont réussi l'exploit de passer dans un pays qui, pour la première fois dans une Coupe du Monde, on a vu très peu de fautes ou d'erreurs d'arbitrage. Mmh. Très peu.
C'est vrai. Donc
déjà, c'est une grande qualité.
Oui, bravo aux
arbitres. Deuxième approche, c'est que je félicite les Marocains parce qu'ils ont su jouer comme des princes. Je félicite la population maghrébine qui l'a encensé. Le Maroc aujourd'hui représente à la fois dans cette victoire extraordinaire, et c'est extraordinaire à plus d'un titre, ils ont quand même battu la deuxième meilleure équipe au monde, la Belgique, n'oublions jamais ça, à la manière. Mmh. Alors on a essayé de trouver des excuses pour la Belgique. Hier, pas d'excuses. Ils ont battu l'Espagne qui était exceptionnellement bonne. Alors tout le monde croyait qu'ils n'étaient pas si bonnes que ça, mais ils n'ont pas arrêté d'attaquer, la défense marocaine était exceptionnellement bonne aussi. Et dernière chose, je félicite les Marocains parce qu'ils ont sorti pour la photo de fin le drapeau palestinien qui dit juste une chose, c'est que les peuples arabes sont tous dans leur ensemble.
J'ai vu ça sur les Champs-Élysées hier.
Partout.
J'ai vu ça sur les Champs.
C'est le côté positif.
Voilà, ils l'ont fait sur le terrain au Qatar. Et la symbolique, il faut savoir que toute l'équipe du Maroc est soutenue par le Maroc, ce qui est normal, mais toute l'Afrique est derrière. Tout le Moyen-Orient derrière, c'est vraiment. J'ai vu des images à Gaza où ils ont célébré la victoire du Maroc. C'est dire
à Gaza. Impressionnant.
C'est normal parce que le peuple de Gaza, oui, sait que les Marocains sont pro-palestiniens et que ça, en termes politiques, ça a du poids. C'est-à-dire que peut-être que les dirigeants marocains vont peut-être revoir un peu leur copie. J'espère.
Ouais. Alors restons dans le foot. Hein. Moi, j'aime beaucoup rester évidemment dans le cadre du foot parce que si on commence à politiser tout ça. Ça va être un joyeux truc. Hein. Leïla du 95. De quelle ville du 95? Bonsoir, Leïla.
Oui, bonsoir, Adil. Du 95, c'est le Val d'Oise.
Le Val d'Oise. On vous écoute, monsieur Leïla. Alors, cette soirée, comment vous l'avez vécue?
Moi, je suis algérienne et j'étais très, très contente pour mes frères, les Marocains. J'étais déçue pour les Tunisiens.
Oui.
Quoique.
D'ailleurs, j'avais envie d'appeler une radio qui n'arrêtait pas de faire une polémique quand ils ont joué contre la France. Et alors là, c'est les commentaires des présentateurs, laisse tomber. Ouais. N'empêche qu'ils ont gagné contre la France. Hein, ils ont gagné. Mmh. On était vraiment très, très fiers des Marocains. C'est nos frères. Ça représente... je suis algérienne, mais les Marocains ont représenté pour moi le grand Maghreb. Et je suis maghrébine, donc très fière pour eux.
Eh bien, merci pour ces mots. Merci pour ces émotions. Merci pour ces émotions.
Il y a juste un mot, Adil.
Oui. Sofiane. Merci, Leïla. Bonne soirée. Qu'est-ce qu'il y a, Gamal Abina?
Sofiane Boufal, extraordinaire. Je vous le cite. Hein. Pardon d'avoir oublié de citer tout le continent africain hier en intervention après match. Merci d'être derrière nous. Je vous dédie la victoire, évidemment. On est fiers de représenter nos frères du continent. On est ensemble. Voilà ce qui est beau.
C'est beau. Beau. Magnifique. 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 Sam de Saint-Denis. Bonsoir, Sam.
Bonsoir.
Bienvenue, mon cher Sam. Tu es en quelle classe?
Je suis en troisième et je m'appelle Samy
en troisième. Anthony, c'est loupé. Samy, alors, cette soirée, comment tu l'as vécu? Le foot, tout ça, la victoire des Marocains.
J'ai trouvé qu'ils ont fait une bonne performance. Je suis algérien, mais je les ai quand même soutenus. J'ai aimé la prestation de Boufal, même s'il est sorti trop tôt. Dommage.
Ouais.
Et bon, on espère un bon match contre le Portugal.
Ouais, exactement. Vous avez raison. C'est à suivre. Merci d'être intervenu, Samy. Ce qui est
dédicace à ma mère.
Bah dédicace. Et bah vous avez bien, tu as bien raison, Samy. Hein. Dédicace et on embrasse tes parents, mon cher Samy.
Au revoir.
Au revoir, à bientôt. Ce qui est beau, c'est que j'ai vu hier que, notamment, désormais, que ce soit dans le monde arabe ou en Afrique, Ziyech et Hakimi sont devenus de véritables stars. Ah bah oui. Méga stars maintenant.
Ouais, et je pense qu'il faut penser aussi à l'excellent défenseur, enfin, il a joué le défenseur d'Al-Marbet, qui a fait trois matchs exceptionnels. Il faut penser effectivement que Hakimi, qui met le but de la victoire, mais il y avait déjà le gardien Bouno, qui était extraordinaire. On n'a pas fait attention, c'est le gardien remplaçant, puisque l'autre était blessé. Il a arrêté combien de balles depuis le début de cette Coupe du Monde? Et là, il a quand même stoppé des Espagnols en pénalty, deux ou trois fois, si je ne me trompe pas. C'est incroyable ce qui a été fait. Donc, à tout point de vue, c'est une équipe qui a une cohésion de groupe extrêmement forte, qui a montré que c'était une famille et qu'elle représentait une famille au-delà de la famille. Donc, moi, je félicite les Marocains pour ça. C'est une vraie fierté. Et je ne vous cache pas que les Algériens, les Tunisiens et les Marocains, dans la rue hier soir, ils faisaient tous la fête.
Hein. Ah, j'ai vu. En tout cas, j'ai vu. Moi, je peux témoigner, effectivement, j'ai vu. Vous nous parlerez de la chose géopolitique?
Oui, si vous voulez.
Et après, on parle évidemment de tous les autres sujets qui nous concernent, les soignants non vaccinés avec LFI qui retire évidemment tout ça. On parlera aussi de cette polémique qui continue de prendre de l'ampleur, vous savez quoi, de cette coupure d'électricité. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous, 01 53 48 3000, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
18h56 avec Emmanuel Dupuis, avec Jimmy Dalido et enfin avec Gamal Abina. Messieurs, mesdames, 01 53 48 3000, avant de donner la parole à Emmanuel Dupuis sur la sauce géopolitique de ce jeu, parce que c'est aussi ça le foot, vous savez, on le ramène systématiquement, il a toujours une connotation géopolitique, on vient en parler. Bahia du 93, mais du 93, c'est grand le 93, quelle ville du 93, Bahia?
Bonsoir à tout le monde de Bondy.
Bondy, exactement. Qu'on aime beaucoup, Bondy. On vous écoute, Bahia, bienvenue.
Alors, une dédicace, je suis algérienne et je voulais laisser un petit message pour le peuple marocain, pour tout le monde.
Oui. Vous êtes mis d'accord ou pas? Parce que j'ai vu qu'en première partie de l'émission à 18h, il y avait des Marocains qui nous appelaient et en deuxième partie de l'émission, il n'y a que des Algériens qui appellent. Je vous jure, j'ai remarqué ça. Vous n'avez pas fait exprès, hein? Bah, j'ai remarqué. Non. J'ai ouvert l'antenne à 18h, que des Marocains qui appellent. Et là, maintenant, ils ont déserté. Maintenant, c'est que les Algériens qui viennent. C'est génial.
Ah bah voilà.
C'est génial.
Bah, c'était pour dire que tout le peuple algérien, en fait, était derrière le Maroc. Puis qu'il ne faut pas écouter plus ou moins ce qu'on dit. Parce que j'ai vu des sites où ils disaient que nous, les Algériens... Après, c'est peut-être des on-dit, mais voilà, je veux juste confirmer qu'on est derrière le peuple marocain et que c'est le Maghreb uni et qu'on est derrière eux. Et qu'on est vraiment content pour eux.
Bahia,
je suis une Algérienne.
Bahia, vous avez tout dit. Restons sur la fraternité et l'union. C'est le plus important.
Voilà.
Merci, Bahia, de ces mots et pour votre appel.
Je vous en prie. Bonne soirée.
Bonne soirée. Au très revoir. Vite. À très bientôt. On continue de vous prendre. Hein. Vous nous appelez au 01 53 48 3000. Emmanuel Dupuis, vous nous disiez justement foot égale aussi géopolitique. Parlez-nous-en. Qu'est-ce que le Maroc, évidemment, va retrouver justement sa géopolitique dans ce... Qu'est-ce qu'elle en tire justement comme géopolitique?
Déjà, contrairement à ce qu'a dit le président Macron, qui appelait à ne pas politiser le sport,
le sport
est politique.
Bien sûr.
C'est un fait politique, c'est un marqueur et c'est un identifiant. D'ailleurs, Mohamed Ali l'utilisait pour...
Même avant lui, de 36, les Jeux Olympiques de Berlin.
Et 36, exact. Mais bon... On pourrait multiplier les Jeux Olympiques de Munich aussi. Donc il y a toute une série d'actions symboliques. Moi je crois que cette Coupe du Monde est très politique, probablement parce qu'elle advient pour la première fois dans un pays musulman et arabe.
Oui.
Donc ça c'est un point.
Et conservateur en plus.
Bon, ça c'est autre chose.
Non, mais on a beaucoup. Non, je dis ça, vous savez pourquoi? Parce qu'on a tout entendu.
Oui.
On a tout entendu, Emmanuel
donc,
Dupuis.
Le Qatar qui joue de sa diplomatie du sport a effectivement réussi son pari.
Bravo, Qatar.
De montrer que le Qatar peut accueillir un événement de cette nature.
Absolument.
Qui plus est, qui ne concerne pas que le Qatar, mais qui concerne une région beaucoup plus vaste.
Peut-être qu'on a à me rappeler quand même que, tellement conservateur, qu'il y a eu quand même entre 5500 et 6500 ouvriers qui sont morts sur les chantiers pour le dire.
On en a parlé.
Coupe du Monde. Pour faire la Coupe du Monde au Qatar, il y a quand même plus de 6000 ouvriers qui sont morts sur les chantiers.
Oui.
Mais ça, il faut le dire. Si les gens peuvent regarder leur match de foot, c'est
qu'il y a des ouvriers qui sont morts. Ce sont des sociétés françaises qui dirigeaient ces ouvriers.
Pour faire l'exposition universelle de
Dubaï. On a même parlé de Vinci qui est visé.
Pour faire l'exposition universelle. pour faire l'exposition universelle de Dubaï, c'est exactement la même chose.
Absolument. Bien sûr, mais il y a la classe ouvrière meurt partout où il y a l'exploitation. Donc non, que ce soit au Qatar, en France,
c'est
partout.
Ça, c'est pas mon propos. Alors, la chose géopolitique, ça advient évidemment dans un contexte dans lequel le Maroc est souvent critiqué par les pays qui n'ont pas souscrit aux accords d'Abraham, c'est-à-dire la reconnaissance de l'État d'Israël. C'est la raison pour laquelle le fait de brandir un drapeau palestinien et le fait d'évoquer cela est aussi un fait politique qui est important. Après, il y a la manière dont le Maroc va, j'espère, continuer et peut-être trouver sur son chemin la France. Avec, espérons.
Imaginez une finale.
Ce serait énorme.
France-Maroc, ce serait juste énorme.
Demi-finale. Si les Français passent l'Angleterre, évidemment.
Il faut que les Français gagnent l'Angleterre et il faut que les Marocains, si je m'abuse, gagnent le Portugal. Bon, c'est deux écueils pour chacun de nos équipes. Mais effectivement, dans le contexte d'une tension très forte actuelle, diplomatique, entre le Maroc et la France, on ne pourrait que le souhaiter pour essayer d'améliorer les choses. Je rappelle que le président Emmanuel Macron va se rendre bientôt au Maroc.
Voyage décalé déjà. C'est pas arrêté, Jean.
Il a décalé déjà le voyage.
Il avait décalé. Hein.
Non, mais c'est déclaré, puisque Mme Colonna est à partir du 15 décembre à Rabat pour préparer le voyage.
Il va y être au mois de novembre.
Ça a été repoussé.
Oui, d'accord.
Et désormais, il est reprogrammé. Ouais. En janvier, en février. Ça, c'est le deuxième
contact. Ah, voilà, en janvier ou en février.
Donc, c'est pas sûr.
Janvier, février, peu importe que ce soit. En janvier, février, il aura lieu. Après, le troisième élément, c'est évidemment le fait que, outre les équipes traditionnelles du Sud, l'Argentine et le Brésil, c'est aussi toute une dynamique au-delà du continent africain, des pays émergents, qui de plus en plus s'impliquent pour améliorer leur capacité sportive et pour en faire un outil qui leur permet aussi d'inonder, d'irriguer et d'une certaine façon d'être représentatif. Et ça peut jouer, effectivement, Gamal me l'ôte de la bouche, ça peut jouer sur l'influence et d'une certaine manière montrer que la prochaine étape, c'est tout simplement que le continent africain soit mieux représenté et pas seulement sportivement.
C'est déjà prévu, mais c'est pas évident.
Il
y aura 10 équipes.
C'est pas qu'on est en retard, c'est qu'on est inondé de coups de fil.
Ah, mais c'est
normal. Et on dit ou par rapport à la victoire.
Juste pour dire, parce que c'est vrai qu'avant les gros championnats comme genre Coupe du Monde, etc., on entend souvent ce préjugé qui court en disant ouais, mais vous savez, la solidarité, l'unité, etc., la masse en mouvement, ça n'existe pas, etc. Ça se voit bien. Moi, je m'en souviens en 98, par exemple. C'était ce qu'on appelle la masse en mouvement, c'est-à-dire que l'émotion se cristallise dans la masse et la masse se met en mouvement. La cause, c'est le sport, mais objectivement et subjectivement, on voit bien que à un moment la masse se met en mouvement, émotionnellement parlant, elle se met en mouvement.
Après, alors,
ça veut dire que concrètement, ça existe. Donc cette unité dont on a, alors ça paraît peut-être un peu bateau, ce que je veux dire, mais si cette unité, cette masse en mouvement existe pour le foot, je pense qu'on peut essayer de le conserver. Ensuite, pour les luttes sociales, etc., etc. C'est exactement pareil.
Ouais.
Mais si la masse en mouvement existe, on le
absolument.
Voit bien.
Absolument. 19h02, 19h03 même précisément. Tiens, je vais aller direction Grenade. Je crois que c'est ça. Non, Grenade.
Grenade.
Oui, c'est ça.
Grenade. Wow, Grenade, c'est beau oui. Ça. On nous appelle de partout, oui. C'est bien. C'est Cook, c'est ça. C'est Cook.
C'est à côté de Toulouse, oui, c'est ça.
Non, c'est vous, sous votre prénom.
C'est Cook.
C'est Cook. On vous écoute. Allez, oui, c'est parti.
Alors moi je vous appelle juste pour ce truc là de je vais sur TikTok, sur Facebook, je vois qu'il y a des Algériens qui sont pas contents et tout ça. Moi je suis marocaine et j'ai envie de vous dire que ça c'est que la politique.
Mais c'est ce que disait Bayaï à l'instant effectivement. Faut pas tenir compte de ça effectivement. Faut regarder ce qui se dit dans la majorité. C'est ça le plus important.
Oui, mais on n'est pas politique. Nous, on n'est pas, on n'est pas président, ou on n'est pas roi ou quoi que ce soit. Nous, on joue c'est le sport.
Vous avez raison. C'est cool que vous avez raison. Nous, on retient quoi? On retient toutes ces belles images partout dans le monde où on voyait notamment en France cette union, fraternité avec tous les drapeaux. C'est-à-dire, il y avait les drapeaux, évidemment, dans la majorité marocains, mais il y avait aussi des drapeaux algériens et des drapeaux tunisiens. Et j'ai même vu des drapeaux sénégalais. C'est ça qu'il faut regarder. Voilà.
Oui. Attendez, moi j'ai passé à peu près 11 ans. Je suis arrivé à 19 ans ici en France.
Oui.
J'en ai croisé tant d'Algériens. Il n'y avait pas un qui m'a dit oh, nique le Maroc, oh, ils sont pas contents. Bah, excusez-moi pour le mot. Oui. Mais ils étaient pas, il y avait pas cette jalousie. Mais les gens qui sont en Algérie, ils ont jamais vu du Marocain. C'est normal, ils peuvent dire ça. Mais ici, en France, en Europe, ça existe pas. Si, nous, on supporte les Algériens, on supporte les Marocains, on supporte les Sénégalais. C'est pour l'Afrique.
Absolument. Merci Sekouk d'être intervenu. Vous avez raison. C'est ça. Il faut retenir les bonnes choses et pas se disperser, perdre son temps. Tiens, Véronique. Véronique qui nous appelle du Sud. Véronique, vous nous appelez de quelle ville?
Oui. Oui, des Bouches-du-Rhône.
Les Bouches-du-Rhône. Quelle ville précisément?
Ça me gênerait de le dire.
Eh ben, allez-y. On vous écoute alors. On vous écoute pour la victoire.
Eh ben, je vais vous dire. Je vais vous dire que je suis une pied noire de mes parents depuis 1900. 11 au Maroc, j'ai connu le sultan, j'ai vu le sultan Mohamed V qui a d'abord été, qui a ensuite été le roi Abdallah, le roi Hassan II, donc le roi Mohamed V qui a fait une dédicace dans mon livre d'or. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment de là-bas et je suis mal à fond, à fond, à fond avec les Marocains. Ce sont mes frères et le Maroc c'est mon pays.
Eh ben merci Véronique d'être intervenue. Voilà, Véronique d'origine du Maroc. Elle est marocaine, elle nous a dit. Elle est
Je suis dans le cœur. Je suis française mais marocaine dans le cœur. Oui. Mon pays c'est le Maroc dans mon cœur.
Oui. Eh ben merci de d'être intervenue ma chère Véronique.
Ah oui, non, c'est trop, je suis trop contente. Est-ce que j'ai bien fait pendant le match, je criais Allah Akbar.
Alors, en général, on dit pas Allah Akbar hein, pendant le match. Hein. On dit pas ça.
C'est ce que je voulais savoir.
Non, en général, on dit pas ça. Voilà. Il vous l'a dit, Gamal. Regardez ce qu'on dit. Voilà, dites-lui, Gamal.
Alhamdoulilah.
Voilà.
Alhamdoulilah,
ça veut dire, voilà, les belles victoires, c'est bien. Voilà. C'est ça, que tout va bien. Parce que là, en général, c'est pas le contexte, là, vous voyez. C'est pas le. On le dit dans un autre contexte, mais pas dans celui-là.
Ok, on le dit pour la marche verte. Et quand je dis,
ouais, mais la marche verte, la marche verte, c'est encore autre chose. Ils disent Allah Akbar parce que c'est, ils faisaient référence à la puissance de quelque chose, justement.
Parce que le roi était commandeur des croyants.
Voilà, absolument. C'est pour ça que je vous ai dit.
Il est toujours commandeur des croyants.
Alors que quand on remercie Dieu, c'est plutôt Alhamdulillah par rapport à une victoire.
Voilà. Voilà, okay, tout est dit, Véronique.
Barakallah.
Voilà, revoir, merci à vous. À part littéraire et tout, hein, c'est bien. Mohamed de Garges-lès-Gonesse. Mohamed, bonsoir, Mohamed.
Bonsoir. Bah écoutez, je suis d'origine marocaine. Bah franchement, pour moi, c'était une victoire pour le peuple maghrébin avant tout, pour l'Afrique, pour les pays arabo-musulmans. Et franchement, tous ces ragots qu'on entend sur Internet par rapport à des gens marocains, algériens, franchement, pour moi, c'est une minorité. Mais les peuples, on sait pas, ils s'aiment très bien. Moi, personnellement, je suis parti en 2017 en Algérie, j'étais très bien accueilli. Et je me sentais chez moi. Je me sentais pas en Algérie, mais je me sentais chez moi. Pour moi, il y avait pas de différence. Mes grands-parents, quand ils m'ont raconté, il y avait pas de frontières à l'époque. Il y avait l'occupant français, c'est que les gens, pour rentrer au Maroc, rentrent en Algérie comme ils voulaient. Ouais. Mais malheureusement, il fait que, il y a eu des histoires géopolitiques qui ont malheureusement diviser les peuples, en sachant que on est deux peuples. Moi, j'ai de la famille. J'ai ma tante, la soeur de mon père qui est à Oran. J'ai eu de la chance de l'avoir en 2017. Encore là-bas, je ne l'ai jamais connu. Je l'ai croisé dans la rue, je ne l'ai jamais connu. Malheureusement, c'est triste. Mais j'espère, Inch'Allah, qu'un jour, les choses, les choses reviendront à la normale, comme les autres pays normaux. On n'est pas obligé d'aller passer par d'autres pays pour venir.
Absolument, merci d'être intervenu, Mohamed. C'est une très bonne chose.
Merci bien. Allez, passez le bonjour. Au revoir. Merci. Au revoir.
Au revoir. À très bientôt. Laïla, après, on avance, hein, parce qu'il faut qu'on traite les autres sujets. Laïla, bonsoir, Laïla. De Saint-Etienne. Laïla?
Oui, bonsoir. Vous m'entendez?
Oui, très bien. Allez-y, je vous en prie, ma chère Laïla.
Alors, moi, c'est simplement faire passer un petit message, en fait. Je suis très, très fière. Donc, je suis d'origine tunisienne. Je suis très fière, donc, du Maroc, parce qu'ils nous ont prouvé qu'avec du travail, avec l'esprit d'équipe, et avec la persévérance, avec la volonté de croire en soi, on peut soulever des montagnes. Et rien que pour ce beau message, même s'ils m'ont fait perdre tous mes paris avec ma famille, ils sont géniaux et je suis fière d'eux.
Quel beau message. C'est vous applaudit. Bravo. D'accord. Bravo, bravo. Vous savez quoi? On est inondé au standard. Je pourrais pas prendre tout le monde, malheureusement. Parce que
voilà, il n'y a pas de souci.
Au revoir, Laïla. On vous embrasse. Je vais devoir, évidemment, parce que, non, mais vraiment, pour le coup, on est très, très inondé au standard. Vous imaginez pas à quel point. Et je vous en remercie infiniment, parce que vous êtes très, très, très nombreux chaque soir dans les informés, justement. Karim, je vous prends parce qu'après, il faut qu'on avance sur les sujets, là. Karim, bonsoir, de Paris.
Oui, bonsoir.
On vous écoute rapidement, s'il vous plaît, mon cher Karim. Très bien.
Au fait, je voulais passer un message. Oui. Moi, j'ai regardé le match hier avec une collègue à moi du travail, qui est une Marocaine.
Oui.
On a regardé le match ensemble dans la voiture.
Oui.
Et franchement, moi, j'ai crié. J'ai pas fait attention. Oui. En fin de match, ma collègue elle m'a dit « Écoute, apparemment, c'est l'Algérie qui a joué, c'est pas le Maroc. » j'ai vu comment tu criais. À un moment donné, elle croyait que c'est l'Algérie qui jouait, c'est pas le Maroc. Alors que moi, je suis un Algérien. Je vais dire, c'est l'humanité qui a gagné hier. C'est
l'humanité.
C'est pas le Maroc ou c'est le grand Maghreb, comme il dit.
Exactement.
Comme il dit le chanteur Imka.
C'est ça, exactement. Merci Karim d'être intervenu, merci.
Allez, merci beaucoup.
Merci.
Allez,
messieurs, comment ça, Gamel?
Oui. Je me dirais jamais une chose extraordinaire. D'abord, les dirigeants sont vont, les peuples restent. C'est la première chose qu'il faut dire aux populations du Maghreb. Ensuite, j'oublierai jamais, effectivement, les explosions de joie extraordinaires d'un peuple qu'on avait peut-être oublié dans le foot, qui aujourd'hui est présent. Lorsque l'Algérie va gagner en Coupe d'Afrique, c'est au Maroc qu'on fait la fête aussi, et c'est massif, et c'est spontané. Les peuples se comprennent entre eux, le reste ne compte pas.
La masse en mouvement. La masse en mouvement.
Il ne veut pas lâcher la masse en mouvement.
Oui, c'est vrai, la masse en mouvement, gardons-le.
Je veux parler de ce second sujet qui a retenu notre attention aujourd'hui. Vous savez, c'est LFI qui retire sa proposition de loi. Justement, ça a provoqué un tollé. Les soignants non vaccinés. Emmanuel Dupuis, qu'est-ce qu'il finalement on retiendra de ça? Ça vous fait rire. Hein.
Oui, une vaste opération politicienne.
Exactement.
Quand même,
oui.
Derrière tout ça, il y a la volonté, premièrement, d'une entente tacite, même s'ils ne veulent pas l'avouer, entre LFI et le Rassemblement National. Quand même, c'est quand même une opération qui vise évidemment à profiter de la niche parlementaire, la demi-niche parlementaire dont disposera le Rassemblement National. Donc c'est un piège que le Rassemblement National a tendu à LFI.
LFI, et ils y sont allés,
mais alors allègrement, avec les deux pieds et les deux mains. Et donc, tant pis pour eux, d'une certaine manière. Donc il faudra l'expliquer. Par contre, ce qui est important, c'est la finalité. Le but, évidemment, étant de réintégrer ce personnel soignant qui n'aurait jamais dû être sanctionné comme le bon docteur Véran, malheureusement, l'a administré. Donc, une affaire politicienne, une affaire qui favorise le Rassemblement National, qui va profiter au Rassemblement National, et LFI qui est très gêné aux entournures à devoir justifier ce qu'il ne peut pas justifier, à savoir de dire exactement...
Ils ont retiré la proposition de loi.
Ah oui, ils ont retiré la proposition de loi, mais la rapporteuse va quand même intervenir à l'occasion de la niche parlementaire. Mmh. En tout cas, à l'heure où nous parlons, c'est le cas. Il est possible qu'on lui interdise de le faire. Il est possible que les insoumis votent l'interdiction de le faire. J'ai cru comprendre d'ailleurs, en écoutant un certain nombre de représentants des insoumis, que c'est ce qu'ils conseillent à la rapporteuse.
Jimmy Dalidou.
Oui, non, mais écoutez, ce qui est très problématique, c'est que ça débat, et puis en attendant, le personnel soignant est toujours pas réintégré, vous voyez. Encore une fois,
je sais que vous êtes favorable.
Oui, non, moi je suis totalement pour la réintégration du personnel soignant. C'est inadmissible qu'il ait été dégagé.
Je ne savais pas, Emmanuel.
Non, oui, non, mais
j'ai dit que le bon docteur Véran.
Oui, tout à fait. Non, mais là-dessus, on n'est pas.
C'était une bouteille.
Non. Sur encore une fois, l'hôpital public a été massacré, sacrifié sur l'autel du profit. Appelons un chat un chat. Ils ont dégagé un personnel soignant qui était compétent, qui était formé, qui avait de l'expérience. On se souvient encore, vous savez, j'ai une de mes voisines là où je vis, elle est justement aide-soignante. Et souvent on discute et elle me disait, vous savez, elle est bientôt à la retraite. Elle me dit, tu sais Jimmy, maintenant je reconnais plus mon hôpital. Parce qu'avant il y avait de l'humain. Quand mes patients, c'était d'abord une approche, c'était de l'humain, c'était l'humain qui primait. Maintenant, ce facteur humain n'existe plus. Ils ne sont que des objets qu'on doit soigner très vite, parce que la politique du rendement se substitue à la politique du service public, la mission de service public. C'est là où on reconnaît l'essence de ce que ça veut dire, l'essence du service public est l'humain, l'humain qui était intégré dans cette mission de service public. Et je crois que ce personnel soignant, il a été sous prétexte qu'il n'avait pas été, il n'était pas vacciné, on l'a dégagé comme des moins que rien. Mais c'est inadmissible. Il devrait réintégrer l'hôpital en même temps que l'hôpital public devrait être reconstruit. Reconstruction de l'hôpital public et réintégration du personnel soignant. On en a besoin.
19h14, je vais devoir marquer une pause. On se retrouve avec l'avis justement et le point de vue concernant Gamal Abina. Et on parlera aussi des autres sujets. Vous savez, cette polémique notamment, autre sujet de polémique, c'est la coupure d'électricité. Mmh. Le mot sobriété revient souvent, régulièrement. Et puis, surtout... À quoi devons-nous s'attendre ? À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan.
Dernière ligne droite, 19h22, avec Emmanuel Dupuis, avec Jimmy Dalidou, mais également aussi avec Gamal Abina, à qui je donne la parole, puisqu'on ne l'a pas entendu concernant, justement, cette histoire de LFI, les soignants non vaccinés, et LFI qui retire sa proposition de loi.
Trop tard, j'ai envie de dire.
Ah, j'ai mis la clochette.
Ça met deux clochettes alors. Non, parce qu'ils font semblant de ne pas comprendre que le Front National, qui est sur le même créneau pseudo-social, hein, ils font du social, soi-disant maintenant, allait voter dans la même direction. C'est évident que par opposition à Macron, ils vont se mettre d'accord sur pas mal de terrains de friction, même si les motivations ne sont pas les mêmes. Après, j'allais dire simplement par rapport. C'était tout à l'heure notre ami Emmanuel qui a fait une remarque où il se moquait un petit peu, il était au second degré, quand il parlait du bon docteur Véran qui a administré. Un traitement de choc, en l'occurrence, un docteur qui vire des docteurs, c'est dur. J'ai envie de dire que leur faute, et c'est une faute politique, ils n'auraient jamais dû, et je le dis haut et fort, jamais dû retirer ce personnel soignant à l'hôpital, parce que d'abord, il y a une détresse, et d'une, et de deux, parce qu'il y avait une solution pour éviter ça. Ils ne veulent pas se vacciner ? Classe Saint-Tienne. Faisait tous les jours un test, faites tous les jours, excusez-moi, un test Covid, c'est tout. Et laissez travailler. Ça les aurait obligés à se mettre un truc dans les nez tous les jours, c'est vrai. Mais au moins, ça ne les excluait pas de leur propre travail. Donc c'est une faute politique et ça a des conséquences lourdes.
C'est pas faux. Messieurs, nous allons avancer parce qu'il est 19h23. Il faut qu'on avance. Je voudrais qu'on parle d'Emmanuel Macron avec sa colère, la colère d'Emmanuel Macron contre ses ministres, la colère contre que sais-je, hein, concernant, vous savez, les coupures d'électricité. Stop à tout ça face au risque de coupure d'électricité. Vrai coup de gueule, nous allons tenir cet hiver malgré la guerre. Voilà toutes ces déclarations. Emmanuel Dupuis, quelle interprétation, quelle grille de lecture doit-on avoir ? Parce que là, franchement, il souffle chaud, le froid, c'est quand même lui qui a initié quand même de travailler sur les différents scénarios.
Un petit peu,
ouais. Ouais, enfin, il souffle le chaud et le froid, mais il instrumentalise et il met en orchestre ses propres contradictions.
Tout à fait.
Puisqu'il a dit lui-même dans une interview à l'occasion de son déplacement aux États-Unis, précisément à la Nouvelle-Orléans, face à une journaliste de la 5, qu'il fallait s'attendre à des coupures. Donc il ne peut pas reprocher que ses ministres disent ce qui est une réalité. Je rappelle quand même qu'il faut savoir compter. Hein. En France, on avait 56 réacteurs. Mmh. On en a fermé 19. Il en reste 36. Si mes calculs sont exacts. En tout cas, il y a 36 réacteurs. On ne peut pas...
56.
Non, 56.
57, mais bon.
Tout.
Ah oui, en tout.
Mais il y en a 19 qui sont à l'arrêt.
20 donc à l'arrêt. 37.
19.
20 sur 57. Ah, il y en a un alors qu'on a réactivé.
19 à l'arrêt. Oui.
Donc c'est 19.
Il y en a 19.
Alors 19 alors. Moi, je suis resté à 20. Pardonnez-moi. Affirmatif. Bon.
Par contre.
19 sur 56.
La réalité, de toute façon, encore une fois, 77% de notre énergie vient du nucléaire. Donc on ne peut pas s'attendre à un miracle. Et encore, on est dans une situation assez ubuesque où c'est les Allemands qui vont nous fournir de l'électricité.
C'était
mort. C'est énorme.
C'est énorme.
Alors pire, on est obligé de réouvrir une centrale à charbon.
Absolument.
C'est ça.
Ah, quand même. Et là, c'est pas la guerre en Ukraine à bon dos. Hein. Ça, c'est des choix politiques qui sont antécédents.
Alors pourquoi cette colère ? Pourquoi cette colère ?
Tout simplement parce qu'il veut donner le sentiment aux Français que tout ça est maîtrisé et ne pas que les Français, pour pas que les Français ne cèdent à la panique. Les Français n'ont pas à céder à la panique. Qu'il y ait quelques délestages. Qu'il y ait sans doute un appel à la sobriété. En tout cas, je pense que le président Emmanuel Macron est toujours dans sa logique de vouloir mettre la responsabilité sur les autres. C'est pas moi, c'est mes prédécesseurs. C'est pas de ma faute, parce que nous sommes dans un système d'échange électrique entre les pays européens. Nous n'y pouvons rien, c'est comme ça. Et donc le sentiment de fustiger ces ministres qui, après tout, sont dans leur rôle, notamment ceux qui sont chargés de la distribution électrique, de dire la vérité, et c'est quand même assez pervers de la part d'un président de critiquer ceux à qui il a dit ou à qui il a demandé plutôt de s'exprimer. C'est vraiment cynique et pervers.
Gamal Abina. Et ensuite, après Jimmy Dalidou.
Jeu de dupes. D'abord, on commence par le début. Monsieur Macron va en Algérie pour ne pas prendre de gaz. On ne parle que de gaz.
Il n'y en avait pas.
Oui, il n'y en avait pas
à vendre.
Il n'y en avait pas à acheter surtout.
C'est les Italiens qui ont tout rappelé.
Les Italiens n'en avaient pas à vendre.
Non, ouais. C'est pas qu'ils n'en avaient pas à vendre, c'est que Macron prétend qu'il ne vient pas pour ça. C'est plus grave encore. Parce qu'ils n'en avaient pas à vendre, on est d'accord là-dessus. Ils n'ont pas les capacités d'export. Ils ont tout saturé avec l'Italie et l'Espagne. Et il n'en demeure pas moins que M. Macron va en Algérie avec ce discours-là en disant, mais ne vous inquiétez pas, mes chers compatriotes français, nous avons pratiquement 95% des réserves stratégiques qui ont été constituées. Nous serons à 100% en septembre. C'est le discours qu'il tenait. On parle de gaz. L'électricité, effectivement, est produite majoritairement par le parc nucléaire français qui produit toujours 77%. Donc on peut dire que ce qui manque en dépendance de la Russie qui était de 17%, les Algériens ont porté 4%, l'augmentation ça fait 12%, il y avait un déficit très léger. Mais, ce qu'il ne disait pas, il l'a dit en sous-jacent sans être clair, aux journalistes, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème, on aura du gaz, on n'aura pas de coupure. Il disait ça au mois d'août, hein, je le rappelle. Il a eu la chance d'avoir 2 mois d'hiver tranquille, mais il a oublié de dire que, et dans son mensonge, ce qu'on appelle les mensonges par omission, que son obligation européenne fait qu'il doit être solidaire des autres pays sur le plan énergétique. Pourquoi ? Parce que la France, en hiver, peut surproduire de l'énergie, fait du délestage, on en a parlé tout à l'heure Emmanuel, est obligée d'exporter vers d'autres pays. C'est des accords comme ça qui sont faits. Parce que le coût de l'énergie qui est bas en France par le nucléaire doit être aligné sur le coût du gaz et du pétrole, ce qui fait qu'on paye plus cher, donc on est sanctionné deux fois. On paye plus cher et on risque d'avoir moins d'énergie et on se fait en plus taper sur les doigts comme si on était des consommateurs en ivresse littéralement énergétique, parce qu'ils parlent souvent de sobriété, sous-entendu vous buvez trop. Eh bien moi je dis simplement que M. Macron est un bel acteur. On peut lui donner ses qualités, qu'il va gueuler, c'est un accord qui sont entre eux, hein, sur ses ministres pour se déjuger, pour dire je ne suis pas le responsable, c'est vrai de le dire, et que l'autre côté c'est un jeu de dupes pour faire croire aux Français, bon on s'est adapté mais il y a quand même des efforts à fournir parce qu'aujourd'hui le réel tombe. Et le réel c'est quoi ? C'est que 30% de l'exportation énergétique russe qui disparaît du jour au lendemain est parfaitement impossible à compenser par ce genre de pistes d'artifice. Donc on aura des coupures, on aura des délestages. Alors rappelons une chose, c'est qu'on ne sera pas tous mangés la main en scène. La France ne distribue pas l'énergie de la même façon du nord, du sud, de l'est, en l'ouest, il faut le savoir. Donc il se passe, et sur le côté est, il va y avoir des coupures, le grand est, parce qu'évidemment ils doivent alimenter les pays comme la Belgique et d'autres pays qui sont en difficulté économique, la Suisse, le Luxembourg, et de l'autre côté, d'autres régions seront mieux loties. Mais en vérité, depuis le début de cette affaire, M. Macron nous a baladés.
Jimmy Dalidou.
Oui, alors trois choses, non, plutôt quatre. La première, c'est effectivement la contradiction, c'est thèse, antithèse, les deux aspects, en fait, il fait croire que un aspect et un autre. En fait, il est lui-même, c'est lui et sa politique mise en exergue qui est la principale cause du problème. La deuxième chose, c'est effectivement la guerre de l'Ukraine à bon dos. Tout devient la faute de la guerre en Ukraine. Vous voyez. Alors les institutions européennes qui ont pulvérisé la production française ces dernières décennies n'ont rien à voir. Là, la politique du celui qui est riche et qui s'enrichit toujours plus au détriment du pauvre qui lui toujours s'appauvrit. L'exploitation de la force de travail, ça a rien à voir. Et tout devient la faute de la guerre en Ukraine. Troisième chose, je dirais, c'est oui, effectivement, l'échange au niveau européen. Non, c'est faux. Il faut pas oublier une chose, c'est qu'effectivement, il y a une interdépendance des pays capitalistes d'Europe, mais il y a aussi concurrence entre eux. Vous voyez, l'interdépendance ne veut pas dire élimination de la concurrence. Et dernier point, je dirais que la politique qui a été mise en exergue par le triumvirat destructeur de Bruxelles a fait que la France est devenue plus un pays commercial qu'un pays qui produit. On est plus commercial que producteur. Vous voyez. Il faudrait peut-être qu'on reprenne notre débat. Voilà, il faut qu'on reprenne un petit peu notre autonomie. Qu'on dise à Washington, ben non, toi tu fais
On reviendra.
Volons un peu de nos propres ailes un petit peu.
Merci messieurs, on reviendra sur ces sujets. Merci à vous les 19h30. Merci aux nombreux auditeurs qui sont venus tout simplement nous faire part de la manière dont ils ont vécu et célébré cette qualification historique pour les Lions de l'Atlas. Merci à Emmanuel Dupuy, le président de l'IPSE.
Merci à vous.
Au plaisir, à très vite ici.
Oui.
Merci à Jimmy Dalidou, à très vite ici même.
Bisous, bisous.
Représentant CGT, mais également auteur.
Toujours.
Gamal Abina.
Tous avec le Maroc dimanche. Vive la victoire du Maroc dimanche. On espère beaucoup pour eux.
Et celle de la France aussi.
Et celle de la France, les deux,
c'est
vous avez raison.
C'est un autre. Moi, je préfère les petits que les grands.
Ouais. Il préfère les petits ou les grands.
On peut espérer les deux.
Enfin, il faut
baisser les salaires. Allez, disons les deux. Les deux face à face, ce serait une très bonne chose. À la réalisation, c'était Anthony. Exceptionnellement ce soir, il n'y aura pas Time Sport. Voilà, l'équipe s'en excuse d'entrée. Moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir. Mais surtout, c'est quoi ?
On ne lâche rien.
Ah, bah voilà ! À demain !
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.